Chapitre 7, on joue la poule. La reine Lampion était une belle femme. Sophie Piston, amante de Picpus, et la sensible Sapajou, dame des pensées de Cocotte, avaient de doux charmes et buvaient de l'absinthe comme des anges du ciel. Il y avait encore Riquette qui levait le pied proprement, Caporal qui fumait mieux qu'un poêle, et Rebecca, toujours enceinte des paquets qu'elle volait dans les magasins de nouveautés. C'étaient de chères filles qui avaient à la fois la beauté présent des dieux et le talent qui s'acquiert par l'étude. Mais de même que le soleil est supérieur aux astres de la nuit, Mazagran éclipsait toutes ses rivales. Mazagran avait la vogue. Elle était chauve par suite de maladie, mais il lui restait plusieurs dents, et quand une violente couche de rouge enluminait sa joue tannée, elle vous retournait le cœur comme un gant. Et elle fut l'enchanteresse qui tendit ses las amoureux dans les sentiers de l'ardent Similor. Mais le drame nous pousse, nécessité funeste. Nous n'aurons de Mazagran qu'un sourire, et c'est une scène austère qui se déroulera pour nous dans ce lieu de délices, l'estaminet de l'épicier. Les personnes à qui on avait fait passer ces mots au cimetière, à midi la poule, étaient à leur poste, debout autour du billard ou assises sur des banquettes paillées, sièges ordinaires de la galerie. Échalot, tel que vous le connaissez, fumait un bloc, comme feu le secrétaire d'État Chamillard. En quelque endroit du billard qu'il vous plût de le caser, il vous faisait directement au doublé par la bricole, selon son intérêt ou son caprice. À chaque instant, chez ces natures modestes, on découvre un nouveau talent, et c'est leur charme. Échalor n'ôtait jamais son habit à cause de sa chemise que la blanchisseuse gardait en gage, mais il retroussait ses manches, relevait son tablier de pharmacien et confiait Saladin à son clou. Alors, libre de ses mouvements, il le bourrait sa queue et enfilait des perles avec enthousiasme. Au plus beau moment de la poule, la reine Lampion montra sa face rubiconte à la porte du billard et dit « Monsieur Mathieu vous espère !» Les queues allèrent au râtelier, la galerie se leva, et Échalot, pour employer sa propre expression, se recolla à Saladin, et Similor lui-même, jetant à Mazagran l'incendie d'un dernier regard, vint à l'ordre. Monsieur Mathieu n'aimait pas attendre. Il était seul dans l'une des salles de l'estaminet, assis sur une table et appuyé au mur. Au dire de tous ces messieurs, quand on le voyait ainsi, à hauteur d'homme, les jambes par devant, il avait l'air de quelque chose, et il fallait qu'il eût de ça pour soutenir, malgré ses infirmités, la jolie position qu'il avait dans la mécanique. On le craignait et on l'admirait. Ce Richelieu, mutilé d'une royauté ténébreuse, inspirait aux bas officiers et aux soldats de l'armée un superstitieux respect. L'entrée se fit en silence. Chacun regarda d'un œil oblique cette tête de pierre encadrée de poils révoltés. Les femmes seules osèrent approcher, risquant à l'endroit de sa galanterie bien connue une attaque à la fois effrontée et timide. Monsieur Mathieu chérissait le beau sexe, et ce qu'on racontait de ses bonnes fortunes impossibles ne contribuait pas peu à sa gloire. Il répondit aux agaceries de ces dames par le sourire du cynisme pétrifié. Il y a de ces têtes chez Guignol, mais une marionnette de grandeur naturelle ferait peur. La Fanchette a avalé son eustache ce matin, dit-il d'un ton morne. Il a le mot pour rire, murmure-t-on. Est-ce vrai, mon petit trois-pattes, demanda Sophie Piston avec caresse, que tu étais le bon ami de cette comtesse-là? Un tic nerveux ajouta pendant une seconde la face de l'estropié qui répliqua d'un ton lugubre de fatuité « Les femmes ne manquent pas ». Puis il ajouta en dépliant une feuille de papier « Tout le monde est ici ?»« Tout le monde » fut-il répondu. « Il fait jour !» prononça solennellement M. Mathieu. Cette proposition n'avait en soi rien d'invraisemblable, puisqu'il était midi et demi. Néanmoins, l'assemblée entière l'accueillit comme une grande nouvelle. Hommes et femmes répliquèrent joyeusement « Causez, habit noir !» Les portes étaient closes. Nous ne pouvons dissimuler ce fait qu'en présence d'une si remarquable mise en scène, Similor était ému. Quant à Échalot, les mystères d'Isis, d'Éleusis et du Grand Orient de France l'auraient impressionné moins terriblement. La chose de tuer la femme n'était que de la Saint-Jean auprès de ce qui allait se passer dans ces grottes. Saladin, heureusement, n'avait pas l'âge de comprendre. Monsieur Mathieu dit « Décision du premier degré, conduite de Toulonnet l'amitié, surveillance du duc et du docteur, valeur 4 millions en billets de la Banque de France. » Un long murmure d'allégresse emplit la salle. « La paix !» ordonna sèchement M. Mathieu. Il ajouta, en jetant les yeux sur le papier qu'il tenait, « On va régler l'ordre !» Le papier contenait seulement la liste des personnes présentes, avec des signes hiéroglyphiques rapprochés de divers noms. Pour les détails, on s'était reposé sur l'excellente mémoire de trois pattes. « C'est une affaire de longueur, » reprit-il. « Grand spectacle, figuration, changement, et le reste. Toulonnet n'a jamais rien moutonné de pareil. Numéro 1, Riflard !» Un gros garçon joufflu sortit des rangs. « Tu es le neveu du concierge de l'hôtel Schwartz ?»« Un peu. Tais-toi. Tu seras sur la porte de l'hôtel Schwartz ce soir et tu regarderas entrer. Les noms qu'il faut faire remarquer sont ceux-ci. Note-les. »« Je me souviendrai bien. » « Note-les. Monsieur Maurice Schwartz, Monsieur Étienne Roland, Monsieur Michel Toucourt, Monsieur Bruno, et tu diras, comment se fait-il qu'un oiseau pareil entre chez nous ?» Quelques voix murmurèrent, comme on l'avait fait la nuit précédente à propos de ce même Monsieur Bruno. « Mais il en mange !»« La paix !» fit de nouveau Trois Pattes. « C'est réglé !» Et l'on se tut. Trois Pattes appela quatre autres noms d'hommes et deux de femmes. « Même rôle que Riflard, dit-il, se placer en dehors de la porte parmi les curieux et faire des témoins dans la masse. »« Faire des témoins, » prononça à l'oreille d'Échalot, Similor, étouffé d'admiration. Échalot soupira et répondit, « C'est l'adresse infernale des traîtres. »« Numéro 8, Échalot, » appela Monsieur Mathieu. « Présent, » répliqua le pauvre diable qui sortit de l'ombre avec Saladin sur son dos. Il y eut des quolibets, mais Échalot déclama noblement « Ce rapport à cette tendre créature que je participe à vos ténèbres, étant né honnête et sortant des mains de la nature. Tu connais Monsieur Champion ?» interrompit Trois Pattes. « Assez pour lui avoir vendu 3 francs de goujon. »« Il sait que tu vas pêcher sur le canal. »« Oui, à preuve. » 11 heures, arrivé chez Monsieur Champion, lui dire qu'en revenant de la pêche, tu as vu les pompiers courir à Livry, et qu'on répétait le long du chemin, c'est la campagne du caissier de Monsieur Schwartz qui brûle. « Ah, bien !» s'écria Échalot, « ça va durement l'inquiéter pour ces lignes. »« Faut l'excuser, » fit Similor, « j'ai beau faire, je ne peux pas lui donner le fil. » On riait. Échalot se redressa, offensé. « Je remplirai mon devoir avec astuce et fidélité, » affirma-t-il. « Je ne repousse que l'homicide volontaire de répandre le sang de mes semblables. » Ce disant, il fit tourner Saladin comme une giberne et l'approcha hurlant de son sein gauche d'où sortait le goulot de la bouteille. Ce geste produisit une telle illusion que l'assemblée entière battit des mains, criant « Bravo, la nounoute !» « Similor, numéro 9, » appela Monsieur Mathieu. Port noble, sourire aimable, démarche élégante, Similor avait tout cela. « Pas vrai, » dit-il en se produisant, « on ne peut pas renier un camarade, parce qu'il n'a pas vos bonnes manières. Il m'a déjà produit des coups de soleil dans les sociétés. Te souviendras-tu bien du nom de Monsieur Léonie de Denis ?» lui demanda Trois Pattes. « Parbleu, ne vous gênez pas, Monsieur Mathieu, vous pouvez me donner le plus compliqué de tous les rôles. J'ai l'instruction voulue, la parole aisée, et le truc pour me présenter avantageusement. Tais-toi. 11h30, Riflard t'aidera à entrer. Tu demanderas à Madame Champion. La femme du président ?»« Un mot de plus, je te casse. Son mari est parti pour sauver ses lignes. Cela l'empêche d'aller au bal. Tu lui dis, monsieur Léonie de Denis, notaire royal à Versailles, est à l'article de la mort. Il est des choses qu'on ne peut confier au papier. Vous n'avez que le temps si vous voulez recueillir son dernier soupir. Nom d'un chien, murmura Échalot, qui essuya ses yeux à la dérobée. C'est fâchant tout de même. Répète, ordonna monsieur Mathieu. Similor répéta, en jetant sur le fond les broderies de son style. Pas mal, approuva l'estropié. Tu auras une voiture à la porte. Tu y conduiras la bonne dame et le cocher se chargera du reste. Le numéro 10 était le cocher. Numéro 11, Mazagran. Et passant, ce libertin de Similor lui serra furtivement la main. Numéro 12, monsieur Ernest. Ce monsieur Ernest était pour le moins aussi flambant que Cocotte. Vous voyez qu'on l'appelait monsieur. L'égalité n'existe pas sur cette terre. Ernest avait un petit emploi chez monsieur Schwartz. Il connaissait le garçon de caisse de champion. Il avait été choisi pour cela. Rendons justice à qui de droit, monsieur Lecoq était un homme énorme. Il n'ignorait rien, pas même la flamme vertueuse et platonique qu'entretenait monsieur Léonie de Denis, notaire à Versailles et céleste champion. Vous n'avez pas l'idée, j'en suis sûr, des talents qu'il faut dans cette carrière, généralement peu estimée. Depuis 3 jours, on manœuvrait autour du garçon de caisse. Une intrigue galante était nouée. Rendez-vous était pris, qui devenait radicalement impossible par l'absence de monsieur Champion et de sa femme. Mais monsieur Ernest arrivait au bon moment et offrait de monter la garde du garçon. Ces choses s'acceptent entre camarades. 1 heure d'amour, puis le devoir. Mazagran était chargé d'allonger l'heure. Numéro 3, numéro 15, numéro 16, etc., des cochers, des valets de pied pour plusieurs équipages armoriés qui devaient stationner le long du trottoir, prêts à partir, rapides comme la foudre. Numéro 20 et suivant, des invités, chargés de faire les témoins à l'intérieur comme d'autres à l'extérieur. L'association avait, nous le savons, des comédiens pour tous les costumes. Et il fallait peu de choses pour réveiller les rancunes de messieurs Touban et à la voix, de Savinien Larsin, de ça et ça lui-même. Michel, Étienne, mieux que les numéros 20 et suivants, utilité habile, étaient chargés de leur faire à point nommé et à voix basse d'insignifiantes communications et de les habiller de mystère. Il fallait que cette expédition, merveilleusement combinée, réalisât du même coup la fortune, non pas de l'association, comme bientôt nous pourrons le voir, mais la fortune de monsieur Lecoq, et sa complète sécurité en livrant à la justice ce qui, mêlé de près ou de loin à son passé, gênait son avenir. Nos 3 jeunes gens, la famille Leber et monsieur Bruno, étaient condamnés sans appel. Monsieur Mathieu lui-même ne savait peut-être pas tout, car c'était un abîme diplomatique que ce Lecoq. Mais du moins, monsieur Mathieu était-il plus avancé que tous les autres dans la confiance du grand homme. Et nous voyons qu'il le servait de bon cœur. Numéro 30 à 40, il y avait des voisins à occuper, des avenues à garder. C'étaient là des rôles inférieurs, si vous voulez, mais malheur à qui méprise cette humble infanterie. Et tenez, les numéros 40 à 50, des messieurs et des dames, étaient chargés spécialement d'organiser une dispute, voire une véritable bagarre, à un moment donné, si quelque bruit de mauvais augure tombait de l'entresol. Disons en bloc que monsieur Mathieu, après avoir fait de nobles personnages, des bourgeois, des employés, des laquais, fit aussi des mendiants, des baisseurs de marchepieds, des bouquetières, et peut-être même ce joueur d'orgue imité de l'affaire Fualdès. 60 numéros sont casés, ajoutons-en 40, car il n'y a point de bonne mise en scène sans comparse. Tout est prévu désormais, il y a jusqu'à 2 faux sergents de ville, une demi-douzaine d'athlètes chargés de mettre le désordre dans l'ordre et d'enlever les 3 clairvoyants. Monsieur Mathieu agita sa sonnette et demanda un verre de rhum. La séance publique était levée. On allait se concentrer en comité secret. Échalot dit à Similor, « Étant maintenant de la chose, tu pourrais demander une somme pour rhabiller l'enfant que je porte. » Ida était d'une conduite légère, répondit Similor en s'élançant sur les pas de Mazagran. On ne peut pas savoir. Ça veut dire, pensa Ichalot atterré, qu'il a des doutes sur ses liens de sang avec le petit. N'aie pas peur, Saladin, je t'adopte devant l'Éternel dans la position que je viens d'acquérir. 5 ou 6 gros bonnets restaient autour de Monsieur Mathieu, qui avait ordonné que la porte fût refermée. Picpus et Cocotte, dont l'un avait procuré le plan authentique des lieux et l'autre les empreintes, faisaient naturellement partie de cette réunion d'élite. « Mais petit, leur dit Monsieur Mathieu, à vous l'honneur, toute cette racaille est pour la bagatelle de la porte. C'est vous qui allez jouer la vraie comédie, et vous serez payé en conséquence. Le patron veut que cette affaire-là soit son cadeau de joyeux avènement. Il ne garde rien pour lui, votre part en sera meilleure. » « Oh !» murmura Picpus avec défiance, « Toulonnais ne garde rien pour lui. » « Peu de choses, du moins, » répliqua Trois Pattes, dont le masque immobile eut un sourire sinistre. « Arrangeons d'abord la petite histoire des agneaux. « Combien y a-t-il d'agneaux » fut-il demandé. « Rien que 2, cet Échalot et ce Similor. Il faut qu'ils restent au fond du filet, parce qu'ils sont voisins des jeunes gens et qu'ils leur ont servi de domestiques. En outre, ils rattacheront le Bruno à l'affaire de la comtesse Corona. Les pauvres diables nous seront bien utiles. » 2 des assistants se chargèrent expressément de faire arrêter en temps opportun Échalot et Similor. « Comme cela, reprit Monsieur Mathieu, nos derrières sont assurées, la justice a son dû, et tous les anciens comptes de l'affaire de Caen se trouvent à jour. À la caisse !» Il prit dans sa poche 2 billets de banque, des clés et 2 cartes d'invitation portant, au cachet qui fermait leur enveloppe, le timbre fastueux de la maison Schwartz. Les clés étaient neuves et sortaient évidemment de la forge. « Voici pour entrer, » continua Trois Pattes, en donnant à Picpus et à Cocotte les 2 cartes d'invitation. « Voici pour travailler. » Il leur présenta les clés. « Quant à ceci, » acheva-t-il, en leur offrant les billets de banque, « c'est la toilette et l'argent de poche. » Cocotte et Picpus acceptèrent le tout sans remercier. Leur gaieté fanfaronne était partie. « Il y a encore autre chose, » dirent-ils en même temps. « Nous avons l'air de ne pas être à notre aise, » ricana Trois Pattes en approchant son verre de rhum de ses lèvres. « Avons-nous peur des griffes du coffre-fort ?»« Le brassard, » commença Cocotte, et Picpus compléta résolument, « Nous ne travaillons pas sans le brassard. » Monsieur Mathieu prit une mine sérieuse et répondit, « Vous ne serez pas seuls, les petits, le magot est trop gras pour qu'on vous laisse en tête-à-tête avec lui. » Tout donner l'amitié et de la noce, et c'est lui qui vous donnera le brassard avec la manière de s'en servir.